Rencontre,
une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.
Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 30 novembre 2017. Alors nous n'allons pas aborder directement le monde musulman ce matin, mais plutôt le regard qu'ici en France nous portons sur lui. Comme le savent ceux qui nous suivent régulièrement, j'ai invité dans cette série presque tous les acteurs travaillant dans le domaine du rapprochement interreligieux, mais c'est la première fois que nous allons parler de l'enseignement des religions à l'école. Nous avons notre invité au bout du fil. Bonjour Stéphane Girardot.
Bonjour Jean Corcos.
Alors Stéphane Girardot, vous êtes animateur en pastorale au lycée Saint-Paul de Vannes. C'est un établissement catholique et vous allez nous expliquer tout à l'heure à quoi correspond cette fonction. Passionné par la transmission des savoirs, le dialogue interreligieux est pour vous, et je vous cite, à la fois une nécessité culturelle, citoyenne et en tant que chrétien évangélique. Nos chemins devaient fatalement se croiser car j'ai rejoint il y a quelques années la fraternité d'Abraham, dont la vocation est le rapprochement entre les trois grandes religions monothéistes. Ça fait une vingtaine d'années que vous proposez aux élèves volontaires de votre école un parcours de découverte des différentes religions qui se déroule de la seconde à la terminale. Vous avez tiré de cette expérience un livre, Culture religieuse, publié aux éditions du Jubilé, dont nous allons parler. Je dois dire que c'est un ouvrage riche, il fait plus de 300 pages. Vous donnez de nombreux exemples de questionnements éthiques ou sociétaux abordés avec les jeunes. Mais vu la thématique de ma série, j'insisterai surtout sur l'interreligieux appliqué à l'islam. Alors Stéphane Girardot, commençons par votre parcours personnel. Votre vie professionnelle semblait toute tracée car vous étiez bon en maths. Mais la perspective de devenir ingénieur vous ennuyait. Vous avez alors vécu une crise d'adolescence avant d'accepter une carrière beaucoup plus modeste dans l'enseignement. En quoi cela a-t-il conforté votre foi catholique?
Alors, effectivement, j'étais un jeune qui avait vécu sa vie de chrétien, formé par la catéchèse, l'enseignement catholique, et j'avais ma voie toute tracée d'ingénieur. Mais vers les zones de Maths-Sup, Maths-P, je me suis intéressé au monde éducation, animation, enseignement. Et ma foi chrétienne m'a aidé dans cette zone trouble de la recherche de l'adolescence. Et au moment où, pendant les quelques mois, on est au début des années de 1980, j'ai passé cette zone où on se recherche, on est paumé dans cette orientation. Je me suis senti soutenu par Dieu. Ça a été ces quelques mois pendant lesquels j'ai travaillé sur moi-même et puis j'avais des prières de temps en temps. Seigneur, aide-moi à y voir un peu plus clair vers là où j'irai. Et puis j'ai terminé ce petit morceau de carrière, cette recherche dans l'enseignement public comme instituteur.
Très bien. Alors, un épisode suivant que vous racontez dans le livre, vous avez fait donc comme enseignant votre service national en Algérie au début des années 80. Quel regard a été le vôtre sur un monde musulman que vous n'aviez jamais rencontré auparavant?
Alors effectivement, j'ai fait mon service national entre 1983 et 85 comme instituteur à l'école française d'Algérie. Oui, j'étais complètement perdu. Un pays où il y avait 99% de musulmans.
Absolument.
Et j'étais moi-même plongé dans un milieu laïque. C'est dire qu'il n'y avait pas beaucoup de chrétiens en mètre carré. Alors j'avais constaté des rites alimentaires qui n'étaient pas ceux que je connaissais, le muezzin qui appelait à la prière des horaires que je ne comprenais pas, très souvent en pleine nuit, le ramadan, les relations hommes-femmes, toutes sortes de choses qui m'ont intrigué sans que je comprenne forcément le sens. Hélas, j'avais pas assez de culture sur l'islam, j'aurais été beaucoup plus à l'aise à cette époque-là si j'avais eu les clés pour comprendre. Rentrer dans une mosquée, aller voir, puis chercher une petite messe le dimanche soir, parce que le dimanche c'est une journée de travail là-bas, pour avancer dans ma foi chrétienne.
Très bien. Alors, on va parler maintenant du lycée Saint-Paul de Vannes. D'abord, combien y a-t-il d'élèves?
Alors, 2100 jeunes en tout sur le campus, dont 1600 en enseignement général.
Très bien.
Un peu plus de 500 en seconde, en première, en terminale.
Alors, en quoi consiste ce poste de responsable de la pastorale?
Alors comme c'est un lycée enseignement catholique, il est tout à fait normal qu'on se réfère à tout ce qui est chrétien. Ben, le poste de la pastorale, c'est animer des activités plus ou moins explicitement religieuses, ouvertes sur le monde, certaines facultatives, d'autres obligatoires, pour que cette vie chrétienne de l'établissement fonctionne bien. Je pourrais vous donner tout plein d'exemples.
Alors, Vannes, pour situer pour nos auditeurs, hein, c'est la préfecture du Morbihan, c'est une ville moyenne d'environ 60 000 habitants. Bon, j'imagine que la population y est beaucoup moins mélangée qu'en région parisienne. En conséquence, quels sont les élèves qui fréquentent votre école? Est-ce que ce sont en majorité des catholiques croyants?
Alors, c'est en majorité des élèves bretons et souvent nés dans la région. Maintenant, catholiques majoritaires, non. C'est-à-dire que nous avons à peu près toute la gamme de pratiques de certains élèves même pas baptisés, ou d'autres qui ont un baptême et une catéchèse datant de leur petite enfance ou pas grand-chose, jusqu'à un certain nombre de familles catholiques pratiquantes, d'élèves qui continuent d'entretenir cette foi pour eux.
D'accord. Alors, j'imagine que vous ne devez pas avoir beaucoup d'élèves, disons, non catholiques. Est-ce que vous accueillez aussi des juifs et des musulmans, par exemple?
Alors, des musulmans, oui, mais minoritaires. Beaucoup venant de la communauté turque, qui est assez importante ici.
Ah, d'accord.
Mais très, très peu de musulmans qui viennent d'autres ethnies, par exemple très peu de maghrébins.
Maghrébins, oui.
Juifs, pas à ma connaissance.
D'accord. Alors, vous êtes entré vous-même dans cet établissement en septembre 1995 et vous dites, donc à la page 59 de votre livre, que vous avez été frappé par la liberté de parole qui y régnait, ainsi que par un encouragement aux initiatives. Vous aviez eu avant l'expérience de l'école publique. Est-ce que vraiment vous avez ressenti que c'était un mieux par rapport à l'école publique?
Oui, parce qu'il y avait la possibilité de dire ce qu'on croyait, ce qu'on pensait. Il y avait une possibilité d'ouverture aux religions que j'ai trouvé formidable. Et il m'était possible de mettre en jeu ma foi personnelle dans mon travail. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. C'est-à-dire mon but pour venir là.
D'accord. Alors, vous racontez aussi que vous avez pris l'initiative d'approfondir hein, votre connaissance de votre religion, donc la foi catholique, en suivant pratiquement le cursus des prêtres. Et donc, c'était bien. Mais est-ce que cela vous a donné aussi la curiosité d'en apprendre plus sur les autres religions monothéistes? Comment s'est fait ce déclic?
Alors, ça a été deux choses en parallèle. La première, ayant cette responsabilité de pastorale dans le lycée, je n'avais que ma compétence pédagogique d'enseignant et ma foi de bon chrétien. C'était un peu court, sachant que tous les enseignants ici ont au moins une licence. Donc, j'ai demandé à mon directeur et au supérieur du séminaire de suivre les mêmes cours que les séminaristes, ce que j'ai étalé sur 6 ans. Par ailleurs, l'ouverture aux religions commençait à être assez à la mode à l'époque, et j'ai enclenché cette activité et les proposé aux élèves. C'est ce qu'on a appelé culture religieuse. Mais il n'y avait pas au départ de lien direct entre ma formation théologique et cette ouverture aux religions. C'est moi qui l'ai conçu.
C'est vous qui l'avez proposé. Alors, on va parler maintenant de cet enseignement de la culture religieuse dont vous êtes donc le responsable. Est-ce qu'il est obligatoire d'abord?
En seconde, il y a obligation de faire un des deux parcours, qu'on appelle nous ici échanger culture chrétienne ou culture religieuse. Donc les élèves vont obligatoirement d'un côté.
L'un ou l'autre, oui. Et combien il y en a qui...
Ils répartissent moitié-moitié.
Moitié-moitié, c'est-à-dire combien en pratique de...
Ben, ils sont 550 en tout, donc moi j'en ai 275 à peu près.
D'accord. Alors, en quoi est-ce que cet enseignement que vous donnez est différent de l'enseignement du fait religieux, entre guillemets, que l'école laïque a décidé, avec un grand retard, de dispenser également, et que je dois dire, je connais très mal. Hein. Quelle est la différence?
Alors, d'abord, première différence, le fait religieux est généralement fait par un des profs de la classe, souvent un prof d'histoire. Pas chez nous, ici c'est une activité à part. C'est donc devenu ici une sorte de cours en soi avec son programme, ses évaluations, son style, sa pédagogie. La deuxième chose, c'est que moi j'appelle ça ici très clairement « regard chrétien sur les religions ». Autrement dit, nous faisons un travail objectif, c'est-à-dire d'observation de qui est l'autre et comment il fonctionne, mais nous ne sommes pas neutres. Nous savons
que vous êtes chrétien.
Le nom d'un milieu chrétien et la suivons.
D'accord. Et dernière question, est-ce que c'est un savoir théorique ou est-ce qu'il y a un aspect, je dirais, plus vivant avec des discussions avec les élèves, des échanges même avec des juifs ou des musulmans, mais à ce moment-là, en dehors du cadre de l'école.
Alors, il y a tout. La théorie, ou disons, le cours magistral est incontournable, il faut apprendre des notions, mais dès que je le peux, c'est illustré de films, d'œuvres d'art, de lectures, d'actualités, de textes.
D'accord. C'est riche, oui.
Le plus riche et le plus varié possible, mais ça, c'est la variété des supports pédagogiques. Alors, bien sûr, dès qu'on le peut, nous essayons de rencontrer des personnes de toute religion possible et imaginable, d'aller visiter leur lieu de culte, de se faire expliquer leurs objets symboliques, si possible, d'assister à une prière d'une religion, quelle qu'elle soit, évidemment, d'avoir des échanges.
Eh bien, merci déjà pour toute cette série de réponses hein, qui place vraiment bien votre travail, encore une fois, qui est passionnant. Amis auditeurs, nous arrivons donc petit à petit à la moitié donc, de notre émission. Et comme d'habitude, il va y avoir une page publicitaire et je vous donne rendez-vous dans 2 minutes. Eh bien, amis auditeurs, nous retrouvons donc pour la deuxième moitié de cette émission « Rencontre ». Alors, le sujet aujourd'hui, c'est « Peut-on apprendre les religions à l'école ?» Et notre invité que nous avons au bout du fil est M. Stéphane Girardot, qui anime justement des cours de culture religieuse. Culture religieuse, c'est aussi le titre d'un livre qui a servi de base donc à cette émission, qui est publié aux éditions du Jubilé. Stéphane Girardot, vous nous entendez toujours ? Parfait. Alors, on va parler un petit peu plus maintenant des juifs et des musulmans. Est-ce que, en se limitant strictement à l'exposé de ce que sont les religions monothéistes, on ne passe pas, et alors peut-être surtout en ce qui concerne les musulmans, à côté d'une réalité qui est complexe, je veux dire par là, tout un aspect sociologique et culturel. Vous évoquiez par exemple tout à l'heure les quelques musulmans qui fréquentent votre établissement, donc le lycée Saint-Paul de Vannes, vous dites qu'ils sont turcs, bon, parce que c'est comme ça, il y a une communauté, puis il y a beaucoup moins de maghrébins, alors il y a peut-être une raison. Il y a un aspect donc sociologique, culturel, il y a des mémoires qui peuvent se heurter, par exemple des visions différentes de l'histoire proche et lointaine. Et puis alors, vous parlez souvent dans votre livre d'un islam modéré, entre guillemets, face à un islam djihadiste, mais sans parler de violence, il y a plusieurs écoles religieuses. Bon, il y a les sunnites, on sait qu'il y a des problèmes aujourd'hui avec les chiites au Moyen-Orient. Il y a les soufis, on vient de vivre un attentat horrible en Égypte contre une de leurs mosquées. Est-ce que vous parlez de tout ça aussi ?
Oui, bien sûr. Mais en même temps, il faut que vous compreniez que avec les secondes, puisque l'islam, je l'aborde, c'est dans mon programme en seconde, il faut commencer par reprendre des bases toutes simples pour faire comprendre aux élèves les piliers de l'islam, la vie de Mohamed, la vie d'un musulman, ce qu'il fait, comment se déroule une prière. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des bases générales sur l'islam à poser. Par ailleurs, il est très important de rappeler l'islam djihadiste, mais très important aussi de rappeler que ça ne concerne qu'une infime minorité des musulmans. Oui. Et c'est pour ça que tous les déplacements qu'on fait dans les mosquées et tous les musulmans qu'on rencontre nous permettent de rencontrer l'immense majorité des musulmans que j'appelle modérés. Quand je dis modérés, ce n'est pas tiède, c'est intégré dans la vie
de la société d'aujourd'hui. Alors, pour prendre un exemple de cette complexité, je voudrais vous questionner sur un tableau donc, qui apparaît page 101 de votre livre. Et ça, c'est vraiment un outil pédagogique. Vous tentez de résumer les différences essentielles entre chrétiens et musulmans. Alors, en gros, tout ce qui est mis est exact. Mais on touche toujours du doigt les limites de l'exercice quand on simplifie. Je vous donne des exemples. Pour la définition du halal, vous savez qu'il s'est développé. Alors, on peut dire que c'est artificiel, mais c'est quand même un phénomène qui prend de l'importance. Une définition de ce qui est pur et ce qui est impur qui resserre les obligations alimentaires. Et ça, au-delà de ne pas manger de porc ou de manger une viande avec un abattage rituel. Le port obligatoire du voile, vous le mentionnez, mais d'une part, il y a énormément de jeunes femmes musulmanes qui ne le portent pas et qui doivent avoir la foi. Et puis, il y a des savants musulmans qui le contestent. Alors, il y en a d'autres qui disent, ben non, c'est pas le voile qu'il faut porter, c'est le niqab. Est-ce que vous rentrez à ce niveau de détail ?
La seule chose qu'on fait, c'est que par rapport à ces questions alimentaires, on les explique à la LARAM avec les traductions. Le voile, on va regarder le verset concerné, ce qui nous donne l'occasion d'ouvrir le Coran, sourate 24, verset 31, et après de s'apercevoir qu'il y a toutes les nuances d'application possibles et imaginables. Mais par exemple, quand on a une fille musulmane dans le groupe, c'est très intéressant de l'entendre dire « je ne mets pas le voile quand je viens au lycée, parce que c'est un lycée, je n'en ai pas le droit. Certaines commenceraient peut-être à le porter dans la rue, mais quand par hasard il m'est arrivé d'emmener des filles musulmanes à la mosquée pour la prière, eh bien on se met d'accord, est-ce que je peux faire la prière? Oui, donc est-ce que je peux mettre le voile? Oui, et là ça pose plus de problème. C'est très intéressant devant les copains comme expérience.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Alors, parlons un petit peu maintenant des Juifs. Votre chapitre 6 est intitulé « Voyages scolaires et rencontres ». Vous venez régulièrement en région parisienne. Je crois d'ailleurs que vous partez très prochainement. Vous...
Il se trouve que j'ai un voyage, donc on est le 30 novembre aujourd'hui.
Voilà.
Demain, 1er décembre et après-demain, et nous serons en milieu juif demain.
Voilà. Alors, c'est très intéressant. Vous rencontrez des élèves juifs. Je crois que ce sont les lycées de l'Alliance israélite que vous visitez. Et vous évoquez très bien tout ce qui rapproche les jeunes juifs et les jeunes chrétiens. Vous parlez du mode de vie qui se ressemble beaucoup, d'une complicité qui se crée. Et vous notez, je ne dis pas que c'est inexact, hein, une certaine fierté identitaire chez les Juifs. Et vous dites que c'est peut-être ça qui crée la différence avec, encore une fois, des chrétiens très variés, comme vous le disiez. Hein. Les élèves ne sont pas tous baptisés, ils ne sont pas tous croyants, mais enfin, c'est quand même une différence. Est-ce que, quand même, au-delà de cette fierté, vous savez qu'il y a chez les Juifs actuellement un sentiment de peur chez eux et dans leur famille. Alors, on en a beaucoup parlé récemment de cette remontée de l'antisémitisme avec le procès Mera. Les médias l'abordent. Est-ce que c'est abordé quelque part dans votre enseignement?
Dans l'enseignement, un peu. Mais, encore une fois, en terminale, c'est là que je fais le judaïsme, il faut poser toutes les bases du judaïsme avant.
En tant que religion.
En tant que religion, avec ses coutumes, ses pratiques, et là il y a énormément de choses à dire, avant d'essayer de décrire ce qu'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Autrement dit, moi je prends du temps pour naviguer avec les élèves en eau profonde, sans oublier qu'il y a les phénomènes de surface, l'actualité, les tempêtes, etc. qui se passent.
Bien sûr.
Maintenant, évidemment, les juifs du lycée de l'Alliance vont très bien décrire le problème qu'ils ont sur le vivre ensemble en France. Et j'ai sous les yeux le journal de la Croix du 24 novembre qui dit très bien ce problème, être juif en banlieue Est en plus. Donc oui, on ne met pas sous silence les problèmes, mais on ne leur donne pas toute la place.
Très bien. Alors,
à côté.
Voilà. Alors vous évoquez aussi donc, des visites de mosquées. Mais est-ce qu'il y a aussi des rencontres avec des jeunes musulmans vivant dans les quartiers populaires de banlieue, comme vous le faites avec des jeunes juifs?
Bien sûr.
Alors,
bien sûr, il se trouve que le 1er décembre, on sera le soir dans la mosquée d'Aulnay.
D'accord.
C'est la même chose.
D'accord. Alors, donc, quelque part, il n'est pas plus difficile d'établir un contact avec eux. Ça se fait aussi bien.
Aussi bien.
D'accord.
Peut-être même un peu plus parce qu'ils ont moins de contraintes religieuses que les juifs, mais la qualité de l'accueil et la qualité de l'entente et du dialogue est la même.
Et tout à fait. Vous avez raison d'insister effectivement sur les contraintes alimentaires des juifs pratiquants, hein, qui est liée donc chez les orthodoxes au fait d'avoir des vaisselles séparées, comme vous le savez très bien, hein, entre le lait et la viande, qui fait qu'il est plus facile finalement d'inviter, j'allais dire, la plupart des musulmans chez vous, j'imagine, que des juifs, à venir chez vous à Vannes.
C'est sûr. D'ailleurs, nous avons déjà reçu un groupe de musulmans ici, des jeunes, il y a quelques années. C'était une expérience passionnante, un peu plus compliquée pour des juifs. Quand je dis contrainte, il y a aussi les horaires, les fêtes,
ah oui,
le Shabbat, le rapport au temps.
Organiser un déplacement n'est pas forcément simple, quoi. C'est plus simple chez vous de venir finalement de Vannes et surtout en région parisienne où les populations juives et musulmanes sont très nombreuses.
Voilà.
Alors, On arrive tout doucement vers la fin de notre émission. J'aimerais qu'on prenne un peu de recul pour conclure cet entretien. Donc, pour rappel, hein, tout le travail que vous faites, c'est dans un cadre catholique, c'est au lycée Saint-Paul de Vannes. Et vous avez entrepris cet enseignement depuis une vingtaine d'années. Or, il y a eu une sorte de bascule dans l'opinion publique depuis les attentats de janvier 2015. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est dans le peuple chrétien que vous fréquentez, pas forcément dans l'école, même en dehors de l'école, ce peuple chrétien qui va à la messe le dimanche. Et je vous donne un sentiment personnel, mais vous pourrez le démentir. Est-ce qu'on n'a pas une sorte de polarisation entre deux catégories, ce que j'appellerais les cathos de gauche, et bon, qui considèrent avec bienveillance un islam en se disant que c'est un autre christianisme, et ce que j'appellerais les cathos identitaires, pour qui finalement les musulmans sont des envahisseurs?
Alors, oui, je reconnais ce que vous appelez polarisation, mais je ne suis véritablement d'accord ni avec les uns ni avec les autres.
Bien sûr.
Et je rencontre énormément de gens qui, en fait, sont quelque part entre ces deux pôles dont vous parlez. Bon, évidemment, si catho identitaire veut dire les musulmans sont des envahisseurs, c'est une thèse absolument pas acceptable. Autant, je trouve que c'est très important d'affirmer qui on est, en qui on croit, mais parler de l'autre comme envahisseur, c'est pas acceptable.
Tout à fait.
Il y a, dans ce que vous appelez catho de gauche, un danger. Ce serait de nier les différences. Et quand vous dites l'islam, c'est un autre christianisme, alors il y a un risque que j'appelle de bisounours, où ils sont comme nous. Ben non, non, c'est pas vrai.
D'accord.
C'est pas vrai. Moi, j'aime énormément le dialogue interreligieux, d'autres choses que je peux vivre ici, que je fais vivre aux élèves d'une manière ou d'une autre, mais en n'oubliant jamais, nous sommes nous, ils sont autrement, ils sont différents, et grâce à ces différences, on se parle et on se rencontre.
Eh bien, merci beaucoup, Stéphane Girardeau, donc pour nous avoir accordé cette interview. Je rappelle une dernière fois le titre de votre ouvrage, Culture religieuse, donc aux éditions du Jubilé. Et amis auditeurs, je vous remercie donc de nous avoir suivis. Alors, cette émission doit être diffusée le 17 décembre. Après, ce sera une rediffusion et nous nous retrouverons donc pour la nouvelle année en 2018. Merci et au revoir.
Rencontre,
une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.